Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition du journal sur la radio Nzamba Gatega Kawe. C'est le samedi 23 décembre 2023. Voici d'abord les titres. Attaque armée sanglante hier soir sur la colline Bougizo de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. 20 personnes y ont perdu la vie. Les auteurs de l'attaque ne sont pas encore connus. Le gouvernement annonce des enquêtes. Noël, c'est don de jour, mais la population burundaise n'a pas le cœur à la fête. Pour ce journal, vous suivrez des habitants de la province Ngozi qui demandent au gouvernement de trouver d'urgence une solution durable à la situation de pauvreté dans laquelle ils vivent. Et puis la Banque centrale a décidé d'arrêter les activités des associations de microcrédit, une mesure fustigée par les concernés et jugée inappropriée par mon expert économiste. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
20 personnes tuées, dont un policier et plus de 5 blessés, tel est le bilan de l'attaque par des hommes armés non encore identifiés sur la colline Vugizo, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les informations en provenance de Gatumba indiquent que ces hommes armés sont venus de la République démocratique du Congo où ils se sont repliés. Le point avec Bonsis Nyongiri.
Les informations que nous détenons des sources au sein de la population de Vugizo indiquent que l'attaque a eu lieu vers 21h lorsqu'un groupe d'hommes armés non identifiés a attaqué simultanément 4 ménages de la localité avec des crépitements d'armes et de détonations. Les mêmes sources donnent le bilan de 20 personnes tuées, dont 12 enfants mineurs, 5 de moins de 5 ans, 3 femmes et 5 hommes, dont un policier, et son arme a été emportée par ces hommes armés, 9 blessés, dont 8 civils et un sous-officier de l'armée burundaise au grade de l'adjudant-chef. D'autres informations indiquent que ce policier tué avait demandé au responsable du poste frontalier de Gatumba, prénommé Jekonias, l'autorisation d'aller intervenir, mais ce dernier lui aurait refusé la permission. Mais ce policier est allé seul intervenir, précise les mêmes sources de son gré. Les habitants de Vugizo saluent son courage et regrettent toutefois qu'il soit tombé sous les balles de ces hommes armés. Dans les 4 ménages qui ont été ciblés par ces hommes armés, il n'y a eu que 2 survivants, dont une femme pour qui la porte est tombée dessus quand ils ont défoncé sa maison et un enfant qui a pu courir pendant cette attaque. Dans la journée de ce samedi, une délégation gouvernementale est allée sur le lieu en compagnie du gouverneur de province de Bujumbura. Ils ont fait le constat des dégâts et ont promis des enquêtes pour traquer et traduire en justice ces criminels. Dans l'après-midi de ce samedi, le mouvement Red Tabara a revendiqué l'attaque sur son compte X. Toutefois, les habitants de Gatumba indiquent que cette attaque rappelle celle du 18 septembre 2011 dans un bistrot local nommé Les Amis, où une attaque ayant aussi emporté la vie d'une vingtaine de personnes, dont des enfants.
Mon fils Nyongere, le gouvernement du Burundi condamne cette attaque qui a emporté la vie de 20 personnes. C'est le contenu d'un communiqué rendu public ce samedi par le gouvernement. Jérôme Niyonzima, porte-parole du gouvernement, indique que des enquêtes ont déjà commencé pour identifier les auteurs et les traduire en justice.
En date du 22 décembre 2023, vers 20h40, 9 ménages ont été la cible d'une attaque meurtrière dans le secteur de Vugizo, situé tout près de la frontière de la République du Burundi avec la République démocratique du Congo, en zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les membres du gouvernement se sont vite dépêchés sur le lieu du drame pour constater cette horreur et réconforter la population. Les enquêtes sont déjà en cours pour identifier les terroristes et les traduire en justice. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte terroriste ignoble et barbare, dirigé contre des populations civiles et innocentes, majoritairement des enfants et des femmes. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs au cours de cet acte terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées dont il assure déjà la prise en charge des soins. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance, surtout pendant cette période des fêtes de fin d'année, afin de prévenir et de déjouer de tels actes terroristes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais.
Jérôme Niyonzima, porte-parole du gouvernement. Parlons politique avec cette brève. La police a assiégé ce samedi matin le nouveau siège provincial du parti CNL en Ngozi. C'était au moment où les militants de ce parti s'apprêtaient à faire les travaux d'entretien du bâtiment. Cela survient après que le 2 décembre dernier, les représentants de ce parti dans cette province, Jonas Naïmana, avaient été arrêtés par le commissaire provincial de police et conduits vers une destination inconnue avant d'être libérés vers le soir du même jour. Son arrestation, ce jour-là, a été opérée alors qu'on fixait le drapeau du parti devant un nouveau bureau dans lequel le parti venait de déménager. Pour Jonas Naïmana, le comportement de la police face au parti CNL dont cette province démontre à quel point cette force publique reste déterminée à persécuter cette formation politique. Il demande à l'administration de s'impliquer positivement dans la réalisation des activités de ce parti au lieu de les perturber. La célébration des fêtes de Noël et du Nouvel An tend à être oubliée par les habitants de la province Ngozi. Ils disent que c'est suite à la crise financière qui s'observe dans les familles. Selon eux, cette situation est causée par la dévaluation du franc burundais qui occasionne la hausse des prix de différents produits sur le marché ainsi que la perpétuelle pénurie du carburant. Ils supplient à cet effet le gouvernement de faire afin qu'une solution durable soit trouvée. Écoutez-les.
Aucune préparation n'est prévue car les produits sont chers et nous sommes dans une crise financière. À l'époque, on achetait du riz, de la viande. Tous ces produits sont extrêmement chers. Et les prix ont passé du simple au double, voire même au triple. Les personnes qui proviennent de l'intérieur du pays et qui travaillent à Bujumbura prenaient des voyages vers les provinces pour célébrer en famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, faute de carburant. C'est vraiment difficile. Ces fêtes de fin d'année ne me concernent pas car nous sommes dans une pauvreté extrême. Vous me voyez qu'il n'y a aucun mouvement dans les marchés, même dans les quartiers. Les produits sont chers et les gens sont dans une crise. Ces fêtes étaient auparavant une occasion de partager de quoi à manger en famille. Comme je suis chômeur, diplômé, je ne vais pas penser à la célébration des fêtes car je suis dans l'incapacité de faire ces fêtes. Nous demandons plutôt au gouvernement de créer des emplois afin que nous puissions aussi célébrer comme les autres. Il y a une pauvreté extrême. Il est difficile de célébrer.
C'était des habitants de la province Ngozi. Les membres des associations de commercialisation de l'argent sous forme pyramidale ou à travers les groupes communément appelés cercles se lamentent contre la décision prise par la Banque centrale d'arrêter leurs activités. Ils disent que ces cercles les aidaient à réaliser de petits projets de développement familial pour des personnes n'ayant pas de possibilité de contracter le crédit bancaire. Dans un contexte où la pauvreté sévit dans les familles, ses membres demandent à la BRB de suspendre la mesure. C'est un dossier détaillé par Eddy-Claude Ninaz.
Les membres de ces associations qui aidaient les personnes moins nanties à réaliser de petites activités de développement familial grâce à des crédits à court terme s'opposent à la mesure. Selon eux, le recours à ces associations est motivé par le fait qu'ils n'ont pas d'hypothèque ni d'avaliseur pour avoir accès au crédit bancaire. Suivez l'un des membres de ces associations.
La Banque de la République du Burundi vient de suspendre les activités des associations d'investissement pour commercialisation de l'argent sous forme pyramidale et des cirques, estimant qu'elles sont illégales. Suite à la pauvreté qui se fait observer dans le pays, certaines personnes s'étaient mises en deux petites associations dans lesquelles elles donnaient des cotisations et s'octroyaient de petits crédits pour pouvoir réaliser de micro-projets. Parce qu'elles ne sont pas susceptibles de recevoir des crédits auprès des banques, du fait qu'elles n'ont pas d'hypothèque ou d'avaliseur. Ces jours-ci, les gens sont devenus malhonnêtes de façon concret d'avaliser quelqu'un. Alors, avec ces associations, on parvenait à réaliser de petits projets, notamment dans le domaine agricole ou élevage.
C'est pour toutes ces raisons qu'ils demandent à la Berbe de suspendre la mesure pour le bien de leur famille.
Nous demandons à la Berbe de suspendre cette mesure parce que nous, le bas peuple, n'avons pas accès au crédit bancaire suite aux raisons mentionnées ci-haut. Ou alors, nous demandons à la Berbe d'organiser des formations ou sensibilisation à la population pour trouver d'autres voies de sortie. Sinon, la pauvreté va continuer à s'enraciner.
Vous saurez que cette mesure a été prise le 14 décembre de cette année. Les raisons avancées par la Banque de la République sont notamment le fait que les organisateurs peuvent par surprise fermer le circuit sans aviser les investisseurs. Les conflits sociaux, le vol, le blanchiment d'argent et autres figurent aussi parmi les raisons. En conséquence, la BRB demande que tout l'argent soit restitué sans délai à leurs propriétaires.
Les associations de microcrédit sont d'une importance capitale pour des populations aussi pauvres que les Burundais. C'est ce que fait observer Diomède Ninhérété, expert économiste. Pour lui, c'est le seul moyen pour leurs membres d'accéder à des financements pour initier des activités d'autodéveloppement. On l'écoute.
Je crois que c'est important d'abord de rappeler que la mission principale des microcrédits ruraux, c'est d'abord l'accès à des services financiers, parce qu'on ne peut pas imaginer le développement sans avoir l'accès aux finances. La deuxième mission, c'est de se donner des crédits mutuellement. Et la troisième mission de ces associations, c'est notamment la solidarité sociale. Je crois que c'est important de se concentrer sur cette troisième mission qui est la solidarité sociale dans la communauté, dans la collectivité. Alors, suspendre les associations d'épargne de crédit, c'est encore une fois refuser que la communauté puisse se regrouper et se parler et surtout s'aider mutuellement. Parce que en faisant l'épargne, en discutant des crédits, en se donnant des moyens, en se donnant des conseils pour la solidarité sociale, c'est ça le développement. Parce que nous croyons fondamentalement qu'avoir l'accès à des services financiers, ça donne l'occasion de s'émanciper économiquement et socialement, bien sûr en créant de l'autonomie et la durabilité économique dans les communautés où les gens continuent à s'appauvrir, dans la communauté où il y a rareté des emplois salariés. Donc c'est ces gens-là qui se retrouvent pour créer des associations de crédit. À un certain moment, ils vont aussi dans les activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture, notamment dans l'élevage, notamment dans le montage des boutiques. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'est-ce qui était derrière la création de ces associations d'épargne de crédit dans les villages. C'était de les permettre de se regrouper et de se donner des crédits pour finalement créer les propres emplois, créer les propres entreprises, créer les propres activités génératrices de revenus. Donc voilà, il faut comprendre vraiment dans ce sens.
L'expert économiste estime qu'au lieu de suspendre ces associations, la BRB aurait dû s'atteler à mettre en place un cadre légal pour les aider à mieux se structurer et améliorer ainsi leur rendement. On écoute encore une fois Diomède Ninhérété.
Suspendre les activités parce qu'il y a probablement certaines anomalies qui ont été observées. Mais alors, là, il appartient à la BRB, à travers l'administration aussi, de pouvoir plutôt prendre des mesures pour encadrer davantage les associations d'épargne et de crédit. Les encadrer en créant un cadre légal très performant, adapté au contexte actuel. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment de les aider à se structurer davantage. Parce que les banques commerciales, les institutions de microfinance ne se retrouvent pas dans les collines, ne se retrouvent pas dans les quartiers, ne se retrouvent pas dans les lieux de service. Ils se retrouvent généralement dans les communes ou dans les centres décentralisés. Donc on voit que c'est vraiment un bon moyen d'organiser la population, c'est de les laisser se retrouver dans les cirques, mais de faire le contrôle comme la BRB a la mission principale de contrôler la masse monétaire. C'est tout à fait normal, mais il appartient à la BRB de faire un cadre légal adéquat, adapté au contexte actuel. Et d'ailleurs, je dois vous dire que d'après le décret créant les microcrédits RIRO, c'était d'abord au niveau de la verbesse. Ce n'était pas la demande de l'agrément, c'était l'enregistrement pur et simple. Il suffisait d'aller s'enregistrer et de dire nous voulons former des groupements des crédits et d'épargne. Ça, c'est le décret de 2018 qu'il fallait seulement informer, autrement dit, s'enregistrer au niveau de la Banque centrale. Il faut alors, encore une fois, améliorer parce que maintenant, les gens commencent à comprendre l'intérêt de se retrouver dans ces associations parce que ça aide la population à se donner des crédits et surtout à avoir une solidarité sociale.
Inzamba.
C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Il revient aujourd'hui sur la clôture de la 17e édition de la caravane du Flambeau de la Paix. C'était mardi 19 décembre. Au cœur de la société, vous est présenté par Alexandrine Kéza.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Mardi 19 décembre 2023, le chef de l'État Evariste Ndayishimiye, entouré de sa famille, de nombreuses personnalités éminentes et de la population, a rehaussé de sa présence les festivités marquant la clôture du flambeau de la paix organisé au stade Mounida Peace Park Complex Stadium de Makamba. Selon le chef de l'État, cette activité a contribué à éveiller la conscience de la population en faveur de la paix et du développement. À la lumière des 17 années écoulées depuis la mise en place de cet événement, quel est le bilan et la plus-value de cette initiative? La réponse à cette question, si dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 23 décembre 2023, à la présentation, vous êtes avec Alexandrine Kéza. Bienvenue. Au cours de ces cérémonies marquant la clôture de la 17e édition du Flambeau de la Paix, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a félicité les porteurs du flambeau pour le courage, la bravoure et la détermination qui les ont caractérisés pendant ce périple du flambeau qui a duré 46 jours.
Comme c'est merveilleux de voir que tes messagers ont convenablement transmis votre message partout. Nous vous félicitons, vous les porteurs de flambeaux, pour la prouesse et la bravoure qui vous ont caractérisé partout où vous êtes passés. Je remercie beaucoup les dirigeants des provinces et des communes qui vous ont bien accueillis et vous ont facilité dans votre tâche. Je remercie de tout mon cœur ceux qui vous ont accueillis, ceux qui vous ont donné à manger, ceux qui vous ont fait des dons, ceux qui vous ont hébergé gratuitement et ceux qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre et d'une façon spéciale. Je remercie beaucoup ceux qui écoutent le message que je vous ai transmis et qui sont prêts à le mettre en application. Je remercie beaucoup les dirigeants qui ont fait un effort pour aller accueillir le flambeau de la paix. J'en profite pour remercier énormément le vice-président de la République et le Premier ministre qui se sont déplacés à plusieurs reprises pour accueillir ce flambeau. Vous avez aidé la population à comprendre que ce flambeau n'est pas seulement un symbole, mais que c'est un message de paix adressé aux Burundais et aux étrangers résidant au Burundi et un message de salutation que nous, les Burundais, échangeons entre nous.
Afin d'immortaliser les activités réalisées lors du passage du flambeau de la paix à travers le pays, le chef de l'État a présenté aux participants un plan de construction du monument dédié à ce flambeau qui sera érigé dans la capitale politique Gitega. À cette fin, il a exhorté tous les acteurs à s'impliquer pour que le développement, la paix et la sécurité deviennent des caractéristiques fondamentales de la vie des Burundais, contribuant ainsi à la réalisation de la vision du Burundi. Les politiciens de l'opposition au Burundi estiment que le flambeau de la paix vise à donner une fausse impression à la population selon laquelle tout va bien, alors que le peuple fait face à une misère totale. D'après Frédéric Mbouguignoubila, président de la coalition CFOR Arusha, cette initiative s'inscrit dans la ligne propagandiste du parti CNDD-FDD, cherchant à maintenir la confiance du peuple malgré l'échec du parti au pouvoir dans la mise en œuvre des projets rentables pendant sa période au pouvoir.
Ce sont des actions de propagande. La propagande est une façon de convaincre le citoyen qu'il est en train d'avoir de bonnes choses, mais insaisissables par les yeux nus et à l'intérieur de lui-même, et qu'il soit convaincu que c'est la réalité. Au-delà des moyens utilisés, aujourd'hui tout le monde vous dira qu'il n'y a pas de carburant sur des stations à Bujumbura. Mais cette essence, ce mazout qui est en train d'être utilisé pour ces déplacements des autorités, ça coûterait combien? Ça reviendrait à combien? Il n'y a personne qui peut s'amuser à voir justement les litres consommés par autorité, par sa suite, pour que ce flambeau puisse se réaliser. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent qui devrait être utilisé pour autre chose. Si on voit la vie du citoyen quotidien, combien de fois la personne mange, combien d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas de pupitre, qui n'ont pas de livre, qui manquent ceci ou cela, où l'enseignement est complètement au rabais et où on n'a pas de médicaments. Tenez, lui-même l'a dit la fois passée, eh bien, d'ici peu, on risque de ne pas trouver de médicaments. On risque de ne pas trouver d'engrais chimiques. On risque de ne pas avoir des salaires. Ça veut dire que c'est l'étape qui va suivre. Des actions de propagande. Parce que la première chose qu'ils n'était pas le développement. S'ils avaient visé le développement du citoyen burundais, ces actions auraient été organisées autrement. Pour qu'au bout de 18 ans, on voit des choses palpables dans la vie ordinaire du citoyen burundais. Ce flambeau peut avoir une signification ailleurs, mais en tout cas chez nous, il n'a pas de grande signification parce qu'on n'en a jamais vu de résultat. En tout cas, ça fait 18 ans. Est-ce que vraiment le CNDD-FDD peut dire que nous avons en réalité évolué? Comment ça? Mais le président vous dira, non, le flambeau de la paix, justement pour cacher toute cette misère intérieure du peuple burundais, et puis surtout au niveau de l'incapacité criante de l'État burundais. En fait, en français, on dit faire pousser des fleurs sur un arbre sec.
Ainsi, le flambeau de la paix soulève des interrogations sur sa véritable contribution à la paix et au développement, laissant place à des débats et des réflexions plus approfondies sur son rôle dans la société burundaise. Et voilà, c'est par ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandrine Keda. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt. C'était l'émission au cœur de la société.
Merci à vous également, Alexandrine Keza. Comme tous les samedis, nous terminons cette édition par la revue de presse hebdomadaire. Elle vous est livrée par Eddy-Claude Ninazwe.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de presse hebdomadaire. Dossier justice pour commencer avec un interpresse, l'emprisonnement de la journaliste Floriane Langabillé suscite des vives réactions de la part des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et de la société civile. Ce jeudi, ils s'étaient rassemblés à Bruxelles, en Belgique, devant l'ambassade du Burundi. Tous ces groupes demandaient la libération de Floriane Langabillé, emprisonnée injustement dans la prison de la province Mubanza. Cette journaliste de la radio Ichaniro a été condamnée à 10 ans de prison. Continuons toujours avec Net Presse, parlant cette fois-ci de l'obscurité qui s'observe dans la capitale économique Bujumbura dans ces jours à cause du manque d'électricité. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui vendent des produits périssables qui nécessitent l'électricité pour les conserver. Les soudeurs, les coiffeurs et les utilisateurs de différentes machines qui utilisent l'électricité sont aussi touchés. N'était presque parlé d'une situation qui s'empire, étant donné que ce problème s'ajoute à celui du manque de carburant. Tout cela rend la vie plus dure et influence l'augmentation des prix de première nécessité. Le journal Burundi Echo, quant à lui, s'inquiète de l'augmentation des cas de malnutrition qui s'observent chez les enfants au Burundi. Les chiffres qui émanent du ministère de la Santé montrent 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'une malnutrition chronique, un chiffre qui est loin supérieur au seuil critique de l'Organisation mondiale de la santé OMS, qui est de 30%. Au Burundi, le total d'enfants de cette tranche d'âge s'évalue à 60 000. Avant de clôturer cette revue hebdomadaire sur la radio Inzamba, évoquons l'agence burundaise de presse, ABP, qui écrit sur les problèmes qui hantent le domaine touristique au Burundi. Selon cette agence, le secteur touristique pourrait apporter un intérêt économique s'il était bien géré et bien aménagé. Malheureusement, il connaît beaucoup de difficultés, dont l'absence d'un cadre légal, le chevauchement des compétences entre différents ministères, le mauvais aménagement des sites touristiques ainsi que l'instabilité de l'environnement des affaires sur les services touristiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons la revue de presse de ce samedi. Vous étiez avec Eddie Claude Nazwe. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est par cette revue presse avec Eddie Claude Ninage que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Agréable une fin d'après-midi.